Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Vous écoutez
RMC.
RMC Mobilisation Générale, plus fort ensemble.
Oussem Loussaïef, Thibaut Giangrande.
Salut tout le monde, vous arrivez tout juste pour une soirée événement sur RMC. La dernière de notre vie, de confiné, le 11 mai tant attendu, c'est demain. Alors, on ne s'emballe pas, hein. Déconfinement progressif, on en parle jusqu'à 22h avec Oussem Loussaïef. Salut Oussem.
Salut Thibaut, bonsoir à tous.
Apparemment, toi demain, tu reprends le golf direct.
Direct.
J'ai dommage qu'on ne soit pas en télé.
Exactement.
Le pantalon du plus bel effet.
Je me disais à quel moment il va faire la vanne sur mon pantalon dès le début.
Direct, la première.
Classique.
Le programme Oussem jusqu'à 22h.
Dans quelques heures, la reprise, donc plutôt que la rentrée. Les commerces sont-ils prêts? Surtout, dans quelles conditions vont-ils reprendre dès demain? Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants de France, sera avec nous dans deux petites minutes. À 20h25, on essaiera de répondre à une question. Y a-t-il une peur du déconfinement? Certains peuvent sentir une appréhension avant de reprendre une routine délaissée. On en parlera avec un psychologue à 20h45. Thibaut, on prend des nouvelles du meilleur ami de l'homme. Et non, ce n'est pas Zinedine Zidane. On accueillera Christelle Bercherie, directrice de zoo, du zoo de Thoiry. Le zoo s'apprête à rouvrir ses portes en respectant des consignes très précises. Et puis une deuxième heure un peu plus...
Où c'est qui le meilleur ami de l'homme?
C'est Zinedine Zidane pour moi.
Ah oui, d'accord.
Mais c'est aussi des animaux.
Ouais. Mais après, tu vas rarement au zoo pour voir un chien par contre.
Oui, mais il y a aussi les gorilles.
Oui.
C'est le meilleur ami de l'homme dans certaines contrées. Donc voilà, dans la deuxième heure, un peu plus de sourire, un peu plus de joie. On sera avec le seul homme que ma mère connaît mieux que mon père, Jean-Luc Reichmann, la figure de la pause déjeuner. On rira aussi avec l'humoriste Tony Saint-Laurent. On parlera de la fin d'état d'urgence capillaire qui approche. Et puis la reprise sportive pour tous nos concitoyens français. Et un peu avant 22h, session musique avec le DJ Cut Killer.
20h04, bienvenue sur RMC. Bonsoir Christian Recchia.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je vais reprendre le pantalon d'Oussem à la fin de cet épisode. Il me l'a promis.
Oui, mais cela mais ne
nous avons la même
pas.
Taille, il me l'a promis.
Christian Recchia, qui est le docteur qui nous accompagne depuis le début de ce confinement, que vous le retrouvez évidemment habituellement tous les matins sur le week-end sur RMC, qui nous a fait le plaisir d'être là beaucoup en semaine et encore avec nous ce soir. Merci docteur d'être là.
C'est un honneur et un plaisir.
Est-ce qu'on ne serait pas à J-4h à peu près, hein, début ce soir à minuit du déconfinement progressif en France? On va commencer à retrouver un début de vie normale. Et dans la vie d'avant, je ne sais pas si vous vous rappelez, on allait dans les magasins.
Ah ouais.
Si vous vous souvenez un petit
j'allais
peu
beaucoup, ouais,
à l'époque.
Ouais. Oussem allait beaucoup c'est dans vrai. Les magasins. Ouais.
D'ailleurs, venez nous dire, hein, au 32-16, on vous attend demain, où vous irez en premier. Le premier magasin dans lequel vous vous rendrez demain, on vous attend au 32-16. Cette émission est aussi la vôtre. Les commerces donc rouvrent demain, à l'exception évidemment des bars, des restaurants et de certains grands magasins. Mais donc, feu vert pour les coiffeurs, les esthéticiennes, les magasins de vêtements, d'électroménager, etc. etc. Adrien Courrouble, bonsoir.
Bonsoir à toutes et tous.
Adrien, c'est l'un des grands changements du 11 mai, donc les commerces peuvent enfin rouvrir leurs portes à partir de demain.
Et oui, tu l'as dit, coiffeurs, vendeurs, esthéticiennes, prêt-à-porter, de nombreux professionnels vont pouvoir reprendre leur activité. Mais attention, il y a plusieurs conditions. D'abord, la surface ne doit pas excéder les 40 000 m². Ça laisse de la marge, mais ça exclut de fait les très grands centres commerciaux. D'ailleurs, pour les grands centres qui font moins de 40 000 m², l'ouverture sera au bon vouloir de la préfecture. Et dans les commerces, il faudra respecter les mesures sanitaires en vigueur, la distanciation sociale par exemple, ou encore la possibilité pour les employés de se nettoyer les mains régulièrement, sous peine de voir le commerce fermé. Et puis sachez que les commerces auront la possibilité de rendre le masque obligatoire. Pas de masque, pas de droit d'entrée selon les désirs du propriétaire des lieux.
Mais Adrien, dans certains commerces, ça risque d'être un peu plus compliqué pour appliquer les gestes barrières, non?
Allez dire au coiffeur de vous couper les cheveux avec un mètre de distance sociale. Ce n'est pas possible. Du coup, il faudra prendre son rendez-vous en ligne, enfiler une blouse jetable, mettre un masque et ensuite le coiffeur pourra vous couper les cheveux à condition, bien sûr, qu'il porte des gants et un masque lui aussi. Toujours dans la beauté, le masque sera obligatoire chez les esthéticiennes pour les clients et les employés. Et puis un autre milieu où il va falloir s'adapter, les auto-écoles. Compliqué de garder un mètre d'écart dans les voitures. Les écoles de conduite vont devoir généraliser le port du masque et l'usage de gel hydroalcoolique pour les moniteurs et les apprentis conducteurs. Le véhicule sera nettoyé entre chaque passage. Certaines auto-écoles réfléchissent même à installer des vitres en plexiglas dans l'habitacle. Pour le reste, dans les magasins, les autres commerces, un salarié filtrera les entrées. Certains produits seront sous plexi aussi pour ne plus être touchés, afin d'assurer le respect des gestes barrières.
Adrien Courrouble, merci beaucoup. Bonne soirée à toi.
Merci Adrien.
Et bonsoir Francis Palombi. Vous êtes le président de la Confédération des commerçants de France. Merci d'être en direct sur RMC ce soir.
Bonsoir, merci de m'avoir invité. Bonsoir,
avec plaisir. Est-ce que, Monsieur Palombi, les commerçants français, les commerces français sont prêts à rouvrir demain?
Totalement. Les commerces français, les commerçants en général, les artisans commerçants, le monde du commerce, le monde de l'entreprise tout court, et même au-delà des commerçants, on a envie que notre pays retrouve sa prospérité, même si ce sera parfois long, ce sera difficile. La macroéconomie est là pour sera là pour nous rappeler à l'ordre, mais il y a eu ce confinement, il y a ce virus, malheureusement, et les commerçants ont été exemplaires, très disciplinés. Le 16, ils ont fermé catégoriquement les portes de leurs magasins, ce qu'ils devaient fermer. Et là, eh bien, ils sont tout aussi motivés parce que ça fait 2 mois pratiquement de perdu pour du stock pour certains qui étaient printemps-été. Le printemps est passé à côté. Alors, c'est pour cette raison d'ailleurs, je vous en parle, ou peut-être vous alliez me poser la question, mais les commerçants qui sont impactés par les soldes souhaitent absolument qu'elles soient reportées pour recommencer. Alors, le travail de commerçant, normalement, et non pas en promotion, sans arrêt, moins 50.
Justement, on comptait en parler, mais puisque vous effleurez le sujet, on va en parler. Francis Palombi, pour quelle raison est-ce qu'on peut expliquer concrètement à nos auditeurs pourquoi leurs commerçants ne veulent pas de soldes?
Alors, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas des soldes. Ils demandent. Les soldes, c'est un événement important pour les consommateurs et pour les commerçants. Il faut le dire, et il ne s'agit pas de dire on supprime les soldes. Mais comme il y a eu fermeture des magasins, la saison ne s'est pas faite normalement, puisque les clients ne pouvaient pas aller dans les magasins, ils étaient fermés. Donc ce que demandent les commerçants, c'est simplement de commencer à vendre les produits printemps-été, normalement, comme ils l'auraient fait s'ils n'avaient pas fermé. Et après, bien sûr, arrive le moment, un peu plus loin en saison, où on solde les produits qui se sont mal vendus, des promotions. Je parle des indépendants. Hein. Après, si je vous parlais des chaînes, des grands groupes, du grand commerce, c'est autre chose. On fabrique pour les soldes. Il y a toute une stratégie qui est spécifique pour les grands groupes et le grand commerce.
En résumé, c'est pouvoir vendre à prix fort, entre guillemets, classique, à prix normal, la marchandise qui ne s'est pas écoulée.
À prix normal, pas d'arrière-pensée d'augmenter pour se récupérer. Oh là là, ce n'est vraiment pas l'état d'esprit des commerçants.
Bien sûr.
Mais simplement, et surtout, ce que je demande, et là je lance mon appel sur votre antenne, parce que c'est important, et je pense que les consommateurs doivent devenir des consommateurs responsables. On peut dire oui, nos emplettes égale nos emplois. Eh bien, on demande au ministère d'avoir une démarche de soutien aux petits commerçants en préconisant aux grandes enseignes, aux grands groupes, aux grands commerces de ne pas faire de promotion jusqu'au début des soldes reportés. Parce que sinon, c'est comme si les soldes commençaient le 11 mai.
Francis.
Ça serait inutile de reporter les soldes si on laisse les grandes promotions se dérouler sans arrêt.
Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants de France, est en direct avec nous à 20h10 sur RMC. Francis Palombi, revenons à ce déconfinement, donc à la journée de demain qui risque d'être très active. Est-ce que tous les commerçants sont équipés en matériel? Je pense au gel hydroalcoolique, je pense au masque. Est-ce que vous avez un retour là-dessus?
Oui. Alors là, je vous dis d'abord parce que les organisations professionnelles, les fédérations, la Confédération, et dans tous les secteurs, les coiffeurs, les esthéticiennes ont fait également un travail colossal. Il y a des directives du gouvernement, un protocole, il y a des fiches de bonne conduite par filière. Donc, je vous assure, les commerçants étant tellement avides et tellement contents de pouvoir recommencer à travailler, ce qui est important et ce qu'ils vont respecter, je peux vous l'assurer, on a même fait des essais, on a rencontré des commerçants sur le terrain, eh bien, il y a la distanciation. Ça, c'est important. C'est évident que les achats seront un peu plus longs. Alors, bien évidemment, la grande inquiétude des commerçants, c'est comment les consommateurs vont revenir dans les commerces, dans les centres-villes, sur les marchés. Et nous demandons absolument que les marchés réouvrent dès le 11 mai. C'est indispensable, c'est pas dangereux, et en plus, c'est le lien social qui s'applique. Donc, nos commerçants sont vraiment en phase pour recevoir les clients. Et je dis aux consommateurs, retrouvez vos indépendants, ayez une attitude citoyenne et responsable, privilégiez les petites entreprises qui vous apportent la qualité, qui vous apportent l'accueil, et les moyens de sécurité seront encore plus forts peut-être que dans les grandes surfaces ou les grands groupes. D'ailleurs, vous avez pu remarquer, au-delà de 40 000 mètres carrés, le Forum des Halles n'ouvrira pas lundi. Alors, que les clients soient vraiment, les consommateurs soient rassurés à 100%, les commerçants et notamment les indépendants sur les marchés, on sera à pied d'œuvre et on sera dans la norme pour les mesures de protection.
Ok. Francis Palombi, vous êtes le président de la Confédération des commerçants de France. Merci d'être en direct sur RMC. Nous sommes en studio avec le docteur Christian Recchia qui a une question pour vous.
Bonsoir monsieur, très très heureux de nous avoir à nos côtés. Eh bien, l'idée, vous représentez combien de commerçants à ce jour ?
Alors, je vais vous donner une statistique sans me faire valoir exagérément. Nous avons 19 fédérations professionnelles de branche, les différents corps de métier, alimentaire, non alimentaire, pas tous, mais on en a une grande partie. On a des membres associés qui sont des unions commerciales regroupées dans différentes régions. Ça représente 450 000 entreprises, 1 million de salariés.
Un million de salariés. Alors évidemment, nous connaissons tous la rigueur que vous allez asseoir à partir de demain afin de garantir la pérennité du chiffre d'affaires, la pérennité des relations. Vous l'avez parfaitement expliqué. Est-ce qu'il y a des formations qui sont organisées afin d'initier, de répondre aux questions? Comment vous êtes organisé entre vous pour pouvoir aider ce million de salariés et ces 450 000 chefs d'entreprise qui ont sans doute besoin de vous et d'avoir besoin de conseils? Comment ça se passe?
Eh bien, on a d'ailleurs été aidé par des mesures, un protocole national produit par le ministère du Travail.
Oui.
Nous avons en permanence, alors bien sûr, pour le soutien économique des commerçants, vous vous doutez que nous avons été omniprésents pour apporter les informations au jour le jour vers nos commerçants, et c'est le rôle d'une confédération et les fédérations. Donc nous avons relayé les directives de l'État, nous avons apporté des conseils pratiques, nous avons répondu sans arrêt au téléphone. Quelquefois, on s'est même dérangé dans un magasin ou deux ou trois. Mm-hmm. Mais bon, il y avait quand même le confinement, donc c'était plus compliqué. Mais voilà, donc les organisations professionnelles sont une aide précieuse parce qu'il y a des commerçants qui, tout seuls, auraient eu bien du mal. Et il y a une catégorie de commerçants qui n'appartiennent pas à des organisations professionnelles. Et pour eux, eh bien, je vous dirais qu'on les a accueillis volontiers. Vous savez, ce qui est le mot solidarité n'est pas vain à l'issue de ce confinement et de ce virus. Le mot solidarité, le mot confiance, il faut que nous retrouvions une confiance forte en nous-mêmes, il faut que nous soyons civilement responsables, confiance, solidarité. Et c'est pour ça que tout à l'heure, vous m'avez demandé une forme de solidarité aux grands groupes, aux grandes surfaces, qui ont quand même pu tirer leur épingle du jeu. Mais c'était comme ça, et il fallait bien que les consommateurs s'alimentent ou s'approvisionnent. Mais il faut reconnaître que les grandes surfaces ont été particulièrement avantagées, malgré que ce c'était des milieux confinés et qui auraient pu ou qui ont pu être dangereux.
Francis Palombi, restez avec nous encore quelques instants. Je rappelle que vous êtes président de la Confédération des commerçants de France. On s'intéresse évidemment à la réouverture des commerces. Demain, sont-ils prêts? Merci encore d'être en direct avec nous. On va accueillir Karine Granger. Bonsoir Karine Granger.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir sur RMC. Vous êtes patronne d'un salon de coiffure.
Et tout à fait.
Alors, vous avez une idée, ou en tout cas...
Originale.
Oui, originale. C'est-à-dire que ce soir, à minuit une, vous allez rouvrir votre salon. C'est bien ça?
Tout à fait.
Alors,
tout à fait.
Comment, expliquez-nous comment ça s'est passé. Déjà, comment vous est venue l'idée? Comment vous avez prévenu les clients? Est-ce que vous avez des clients pour cette nuit? Comment ça s'est passé?
C'est dans 3h45 et 30 secondes. Êtes-vous prête?
Tout à fait. mon planning est plein. Donc ça, c'est une certitude. Comment m'est venue l'idée? Pendant le confinement, bien sûr, plus de revenus, un salon fermé, plus de chiffre d'affaires, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Quand j'ai commencé à voir les textes professionnels de distanciation, etc. Ça veut dire chez nous que c'est moitié moins de clients, moitié moins de personnel, puisqu'on est obligé de conserver 4 mètres carrés. Donc ça veut dire moitié moins de tout, sauf de charges fixes, qui, elles, restent les mêmes tout le temps.
Ouais.
Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça?
C'est de là que vous êtes venu l'idée des horaires décalés?
Bah oui. Alors décalé.
Très décalé.
Après, je me suis dit, bah voilà, les gens, ils sont dans l'attente. Ça fait 2 mois qu'on est tous à la maison, les cheveux poussent. Je voyais sur les réseaux sociaux que tout le monde attendait de pied ferme les coiffeurs.
Ah oui, ça c'est sûr, ça.
Donc,
Oussem a 20 cm de cheveux devant moi.
Ah oui, mais ça c'est sûr, ça, Karine.
Voilà. Donc comme on est très sollicité, et ben je me suis dit, bah autant aller travailler la nuit. Donc une équipe de nuit, une équipe de jour. Alors quand je dis une équipe, la nuit, il y a que moi, hein, parce qu'on n'a pas le droit de faire travailler les gens.
Et dans en même temps, vous pourriez avoir confiance en cette équipe, alors.
Oui, tout à fait. Mais pour le coup, même si je leur demandais des heures sup, je ne peux pas les payer parce qu'aujourd'hui, je suis à moins. Donc c'est juste pas possible.
Karine Granger, sur ce cadre légal, est-ce qu'il faut une autorisation spéciale pour ouvrir la nuit?
Alors, je ne pense pas.
Non, parce que vous êtes à votre compte, madame. Vous êtes une entreprise individuelle, donc vous avez le droit d'ouvrir. C'est vous-même qui ouvrez.
Je ne fais pas travailler mon personnel.
Très bien.
Voilà. Et vous avez déjà un rendez-vous à minuit 2?
Ah oui, minuit 1, j'ai un rendez-vous.
Alors justement, Karine Granger, comment vous avez fait pour, une fois que vous avez eu l'idée, que vous avez mis en place, en tout cas dans votre tête, cette organisation, comment les clients vous ont contacté, comment vous les avez prévenus, comment ça s'est passé concrètement?
Alors avec ma société d'informatique, mon programme de caisse, j'avais la possibilité d'envoyer des SMS, donc j'ai travaillé, j'ai fait un petit texte que j'ai retravaillé avec eux. Je l'ai gardé sous le coude la semaine avant le déconfinement, en leur disant, dès qu'on a l'autorisation, je vous donne le feu vert. Donc, on n'avait pas encore l'autorisation de l'État. Mais moi, les syndicats, j'ai eu les syndicats le mardi soir, au téléphone, qui m'ont dit, on peut ouvrir. Je leur ai dit, attention, vous êtes sûr, parce qu'on est en zone rouge, donc je ne veux pas faire de bêtises. Ils m'ont dit, non, on ouvrira, il n'y a pas de problème. Donc, mercredi matin, j'ai appelé la société, j'ai dit, OK, on envoie les SMS. Et là, ça a fait boule de neige, donc j'ai envoyé 829 SMS exactement. Je suis arrivée au salon, ça faisait une heure que les SMS étaient partis, j'avais 50 messages sur mon répondeur, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner, enfin bon, c'était voilà.
Francis Palombi, une dernière question pour vous avant de vous libérer, pardon. On le rappelle, vous êtes président de la Confédération des commerçants de France, donc on voit bien avec l'exemple de Karine Granger la difficulté qu'elle a et qu'elle a eue pendant ce confinement. On peut avoir aussi une pensée pour ceux qui ne rouvriront pas demain.
Eh bien, écoutez, oui, j'ai une pensée pour deux fédérations qui font partie de la Corporation des restaurateurs et des hôteliers. J'ai également, eux, ils vont pouvoir ouvrir des antiquaires pour des salons qui ne dépassent pas une certaine importance, mais surtout les restaurateurs jusqu'en juin ouvrir, et c'est d'abord sur le plan l'aide sociale, c'est catastrophique.
Oui, alors.
Mais voilà, j'ai une pensée pour eux très forte et on travaille avec leur fédération. D'ailleurs, madame, vous avez une excellente fédération dans la coiffure. Je connais bien Monsieur Doré. Ils ont fait à vos côtés et vous, les coiffeurs avec, vous avez fait un excellent travail. Et l'exemple que vous avez donné, madame, ça prouve bien que les indépendants sont flexibles, sont adaptables. Et que les indépendants résisteront, ils ne sont pas prêts de disparaître.
Et justement, Francis Palombi, alors pour le cas précis des restaurants, des bars, on en saura plus fin mai, s'ils pourront rouvrir début juin, mais pour les commerçants, les petits commerçants qui sont dans la possibilité d'ouvrir, légal, je veux dire, est-ce qu'il y en a déjà que vous connaissez? Et si oui, combien qui ne rouvriront pas parce que la faillite est déjà là?
Alors, écoutez, on ne reprend pas ce déconfinement, on ne repart pas avec ces ouvertures. Il y a des entreprises qui sont très en péril actuellement. On essaie une dernière fois de les sauver en faisant des interventions auprès du médiateur du crédit, du médiateur des entreprises. On fait tout. Il y en a quelques-unes qui ont disparu parce que vous savez que les commerçants indépendants, hein, je ne vous apprends rien en tant que média, on a vécu des samedis et des samedis, et madame la coiffeuse, on doit en savoir quelque chose. Eh bien, les Gilets jaunes, on a enchaîné avec les grandes grèves de fin d'année. et maintenant le virus. Alors, vous savez, il y a des entreprises, mais il faut reconnaître que l'État a vraiment mis tout en œuvre pour que les entreprises ne ferment pas. Le chômage partiel mené par le ministère du Travail a été une excellente chose pour les salariés, bien sûr, mais aussi pour les patrons, puisqu'il y avait quand même un soutien réciproque. Donc, je ne vous dis pas qu'il ne va pas y avoir de la casse. Il y en aura de la casse, parce que la reprise ne va pas se faire aussi rapidement. Il va y avoir des baisses de 40, 50, 60%, ce qu'on imagine facilement. Mmh. Et on demande à l'État de continuer à soutenir les entreprises, et notamment les plus fragiles. On a déjà supprimé 3 mois de charges. C'est quand même pas rien. Il faut quand même le dire.
Les mesures ont été...
Ça ne suffira pas.
Ouais.
Et ce que je voulais dire aussi à l'antenne, j'ai été choqué par quelque chose à l'approche de à J-1, J-1 demi-journée de ce déconfinement. J'ai entendu dire qu'à Paris, bon, il y avait des grandes mesures stratégiques, tous en vélo, tous en trottinette. J'ai été surpris que pour redémarrer l'activité, on ne nous laisse pas souffler un peu, nous laisser notre libre arbitre. Si on est plus fragile, si on est plus âgé, on n'est pas tous à même d'aller faire du vélo ou de la trottinette. Il y a des personnes plus fragiles et plus sensibles qui ne veulent pas rentrer
Vous êtes libre de le faire tout de même,
monsieur. Oui, c'est les mesures de Anne Hidalgo, entre autres, qui ont été assez dures.
Personne ne vous oblige à prendre une trottinette, Francis Palombi.
C'est un autre sujet dont on a parlé hier. Merci Francis Palombi d'avoir été en tout cas en direct sur RMC ce soir.
Merci. Je
vous êtes le président de l'invitation. Merci à moi pour avoir été un peu long.
Bon courage à vous.
Merci à vous, président de la Confédération des commerçants de France. Il est 20h23, c'est mobilisation générale. On s'intéresse au commerce qui rouvre demain. Alors demain, oui, demain, mais certains, même dans 3h30, nous sommes toujours avec Karine Granger, qui est coiffeuse à Clichy, qui ouvre à minuit une, son salon de coiffure. Karine Granger, qu'est-ce qui va changer à partir de minuit ce soir pour vous, par rapport à l'avant-confinement, il y a 2 mois, quand vous avez dû fermer votre salon de coiffure? D'un point de vue sanitaire, vous avez commencé à l'évoquer, mais c'est une révolution pour votre métier?
Ah oui, c'est une révolution complète. Travailler masque et visière, toutes les distanciations, les désinfections, et puis l'espace client, puisque là, on se retrouve au minimum d'une heure entre chaque client pour pouvoir respecter tout ça. Donc, c'est une révolution. Moi, ma grande inquiétude, on parlait de dépôt de bilan tout à l'heure, ma grande inquiétude, c'est pas tant maintenant, c'est en septembre. Parce que là, dans 15 jours, je ne sais pas si le chômage partiel va continuer, mais dans 15 jours, toutes les charges redeviennent normales, avec moitié moins de clients, et comment on fait derrière? Parce que du coup, les charges fixes sont toujours là.
On entend vos interrogations, en tout cas.
Et puis Thibault aussi voulait le dire aussi, Karine, il voulait savoir surtout votre fourchette de prix. Ça, il voulait pas vous le dire directement, Karine Granger.
Alors, je voulais savoir s'il y a un rendez-vous, mais j'imagine que vous êtes blindé, c'est ce que vous nous avez fait comprendre.
Merci, merci en tout cas, Karine Granger, d'avoir été avec nous sur RMC en direct. On le rappelle, ouvrez votre salon à minuit une et votre agenda est rempli, en tout cas pour cette nuit.
Bravo à vous. Félicitations, bon courage à vous et on pense à vous. Nous pensons tous à vous.
On prend tout de suite une auditrice qui a fait le 32-16. Corinne, bonsoir Corinne.
Bonsoir.
Bonsoir Corinne. Alors vous, si j'ai bien compris, vous avez connu des jours difficiles pendant ce confinement et donc vous rouvrez en grande difficulté, c'est bien ça?
On rouvre avec 2 mois de chiffre d'affaires en moins, donc il n'y a rien à faire. Même toutes les aides des gouvernements, qui sont formidables, moi j'ai rien à dire, ils ont fait leur maximum à mon avis, ne remplaceront jamais 2 mois de chiffre d'affaires perdus. Donc effectivement, on rouvre en grande difficulté, d'autant plus qu'il faut faire de très lourds investissements pour les plexis, les masques, les visières, etc. Ça coûte très cher. Les tarifs ont quasiment été multipliés par 10 en quelques semaines. Oui. Et donc, c'est un surcoût énorme à un moment où on n'avait vraiment pas besoin de ça.
Merci en tout cas,
merci
Corinne,
pour votre
témoignage ce soir au 32-16. Et bon courage pour cette réouverture à partir de demain pour les commerces. Il est 20h26, la mobilisation générale continue. Nous sommes avec Thomas Jacob. Bonsoir. Vous êtes gérant du Petit Sommelier, un bar à vin en région parisienne.
Oui.
Vous rouvrez pas demain, mais quand même à moitié. Expliquez-nous. C'est original.
Alors, c'est original. Moi, je rouvre à partir de mardi parce qu'en fait, mes horaires sont logiquement de mardi à dimanche.
Oui.
Et en fait, vu que je suis du secteur de la restauration en tant que bar à vin, logiquement, je n'ai pas le droit de rouvrir.
Voilà. Alors,
sauf
pourquoi vous rouvrez?
Je vais faire des plateaux uniquement le midi à emporter.
D'accord.
Et je reçois toute ma marchandise mardi. Donc du coup, en fait, de mardi jusqu'à vendredi, je vais faire des plateaux le midi pour tous les commerçants et salariés de sociétés de la ville de Poissy. Et à partir de la semaine d'après, je vais rouvrir du lundi au vendredi midi. Et les vendredis soirs, je vais proposer des apéros à emporter le soir.
Des apéros à emporter, donc voilà.
Voilà.
C'est un système assez original qui a été mis en place. Alors, qu'est-ce qui change par rapport à votre époque avant confinement? Alors, on a vu que c'était une commande à emporter en livraison. Est-ce que vous avez dans l'espoir, dans les jours, dans les semaines qui viennent, de reprendre un rythme un peu plus normal?
Bah, normalement, en fait, je suis ouvert tous les jours, en fait, du mardi au dimanche, de 11h le matin jusqu'à minuit le soir. Donc, ça me change énormément de mes horaires habituels, à savoir que je vais ouvrir uniquement le midi. De faire des plateaux repas pour le midi, pour les commerçants, ça me change un petit peu aussi, parce que logiquement, on vient uniquement consommer un verre de vin, prendre une planche le midi ou le soir. Et donc, du coup, j'espère vraiment reprendre l'activité à part entière à partir du peut-être 2 juin, comme annoncé par le Premier ministre et le Président à la décision du 31 mai. Après, si on rouvre uniquement au mois de septembre, ça va commencer à devenir un peu plus compliqué. Donc, c'est pour ça que j'ai pris les devants et je me suis dit que potentiellement, sur la ville de Poissy, vu que tous les commerçants vont rouvrir, à part la restauration, il faut bien qu'à un moment, les salariés de sociétés ou autres, ils aient au moins un endroit où se restaurer. En plus de ça, vu les restrictions qu'ils ont annoncées par rapport à certaines sociétés avec les micro-ondes, les fours, au moins dans les cafétérias ou autres, manger des plats chauds, ça va commencer à devenir un peu compliqué.
Et puis en boulangerie, ça vous permet également de commencer à redémarrer l'activité aussi. Donc.
Et donc du coup, ça va me permettre de repartir sur une activité autre que le bar à vin, certes, mais en faire avec les moyens qu'on a. Et puis,
la créativité pour relancer son activité. Merci et bravo Thomas, merci d'avoir été en direct sur RMC ce soir, gérant du Petit Sommelier. À Poissy, dans les Yvelines. Il est 20h29, la mobilisation générale continue en direct jusqu'à 22h avec Oussem, évidemment, avec le docteur Christian Rekia avec nous ce soir jusqu'à 21h. Et dans un instant, on parle beaucoup du déconfinement, dans 3h et 30 minutes, officiellement. Mais certains ne veulent pas se déconfiner, certains ont peur du déconfinement. On en parle avec le docteur et avec Jérémy Galen, un psychologue. À tout de suite.
RMC Mobilisation Générale, plus fort ensemble.
Oussem Loussaïef, Thibaut Giangrande.
20h31, merci de passer votre dernière soirée de confiné sur RMC en ensemble en direct jusqu'à 22h. Oussem, dans un instant,
on va prendre des nouvelles de nos amis les animaux. On prend la direction du zoo de Thoiry dans les Yvelines. Le zoo s'apprête à rouvrir ses portes, mais vous allez le voir en respectant des consignes très 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 précises.
Déconfinement H-3 et 30 minutes. J'ai l'impression d'être le 31 décembre. Il n'y a pas Sébastien qui fait un truc à minuit, tu sais, le décompte là,
Arthur
non?
Arthur et tout. Ouais.
Alors,
le gâteau rappelle, est prêt.
Le gâteau est prêt à la
absolument.
Maison.
Absolument.
Donc certains attendent le 11 mai depuis des semaines, comme certains autour de ce studio, vous l'aurez remarqué.
Oui.
Mais c'est pas le cas de tout le monde. Docteur Christian Rekia qui nous accompagne jusqu'à 21h. Vous êtes docteur, mais vous êtes un homme avant tout. Ce déconfinement, comment vous l'appréhendez?
Ah ben moi j'étais tous les matins à l'hôpital et les après-midi de concert avec vous. Je dirais que je le vis avec dans l'accompagnement, parce que je constate depuis 3 jours et je ne m'y attendais pas, c'est que les personnes attendent le déconfinement, mais ils sont véritablement pas angoissés, mais ils ont des questions pratico-pratiques sur comment cela va se passer. Et comme malheureusement nous sommes sur Paris, ils ont surtout un problème sur le transport. Parce qu'évidemment,
la mobilité.
Quand on appelle des personnes qui sont à Bordeaux ou comme tout à l'heure à Lille, ce sont des personnes qui sont plutôt dans la campagne. Et là concrètement...
Alors dans la campagne de Bordeaux, la campagne de Lille alors.
Oui, dans la campagne de Bordeaux, la campagne de Lille, dans les campagnes, aux alentours des villes. Et là, il n'y a pas de problème de déplacement. Mais là, à Paris, il y a particulièrement des problèmes de déplacement. Et ça explique le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'ils ont l'angoisse de risquer d'avoir des soucis pendant le déplacement. Et après, tous ceux qui m'ont appelé aujourd'hui ou que j'ai appelé me disent, alors après, au travail, nous serons contents de nous retrouver nos amis quand il est nécessaire d'en retrouver.
Ils connaissent pas Oussem. Bonsoir, Jérémy Galen.
Bonsoir.
Merci d'être en direct sur RMC. Vous êtes psychologue. Le déconfinement, ferait fait donc peur à certains Français. C'est une peur que vous entendez également.
Oui. Alors c'est pas toujours exprimé clairement. Ça peut se passer aussi dans les questions que les gens posent. Mais en tout cas, je rejoins ce que disait le docteur juste avant, c'est que l'information n'est pas forcément fiable, forcément précise, et puis elle est différente selon les lieux géographiques en France. Donc, ce stress se manifeste beaucoup par les questions.
Alors, c'est une peur sanitaire, ce que vous soulignez en premier, ou est-ce qu'il y a aussi peut-être autre chose, je ne sais pas, mais est-ce qu'il n'y a pas des gens qui se sont dit pendant le confinement, finalement c'est pas mal, je peux dormir, je peux lire, faire des activités que je n'avais pas l'habitude de faire, profiter oui. peut-être plus de ma famille, et du coup, à partir de demain, tout ça c'est fini. Est-ce que ça existe aussi?
Oui, ça existe, et par contre, j'ai quand même le sentiment clinique, c'est-à-dire de ce que moi j'ai pu observer, qu'ils sont plus rares, mais ils sont pas la majorité. Je pense qu'il y a quand même la majorité qui souhaite sortir de cette situation. Ouais. En revanche, oui, bien sûr qu'il y en a pour qui ça signifie une heure de trajet le matin, une heure de trajet le soir. Pour d'autres, ça signifie mais est-ce que je dois mettre mes enfants? Est-ce que mes enfants vont me ramener le Covid à la maison ou quoi que ce soit? C'est vraiment les questionnements aujourd'hui sont perpétuels.
Jérémy Galen, vous êtes psychologue, vous êtes donc en première ligne de toutes ces interrogations-là. Comment on peut gérer cette crainte du changement, de passer de la vie d'un homme ou d'une femme confinée à celle de quelqu'un de déconfiné?
C'est une question d'adaptation. Alors, on n'est pas tous égaux là-dessus, mais comment est-ce que chacun va être en capacité de s'adapter à un nouveau monde? J'ai envie de dire, on ne sait pas dans quel pays on va atterrir demain. Comment est-ce que ça va quels vont être les nouveaux codes sociaux? Quels vont être les nouveaux codes quand on rencontre autrui ou quoi? Là, quand on voyait des gens qui allaient faire leurs courses et qui se connaissaient, on voit bien qu'ils gardaient un mètre cinquante de distance. Mais parce que c'était facile, il n'y avait pas beaucoup de monde dehors ou quoi. Là, qu'est-ce qui va se passer? C'est vraiment cette question-là.
Docteur Ricchia.
Oui, et je n'ai pas votre expérience, monsieur, mais j'aurais souhaité échanger avec vous sur un point, c'est que, au fond, on n'a peut-être pas, pendant ces 8 semaines, nous, les professionnels, essayé de les détendre et de dire, finalement, détendez-vous, le déconfinement sera un moment où vous allez pouvoir retrouver la joie de retrouver des liens et des amis. Et puis, il y a un autre point que j'aimerais susciter, c'est au fond, se dire que, avant le confinement, il y a eu le confinement qui était facile à faire, mais on a tellement compliqué la mise en place du déconfinement que pour les personnes, rien n'est clair. Et je pense qu'il faut sans doute simplifier l'étape de déconfinement vers le lien et en demandant aux gens de lâcher prise sur des éléments simples, quoi.
Oui. Tout à fait. Mais alors du coup, nous les psychologues, j'espère qu'on a quand même cherché à les rassurer.
Oui, oui, mais vous n'êtes pas assez nombreux. Voilà ce que je voulais dire.
J'ai envie de dire qu'on n'aurait pas fait notre travail. Mais par contre, ce que vous dites est aussi important dans le sens où on est un petit peu, nous professionnels de santé, on est un petit peu en décalage avec le reste de la population qui a été véritablement confinée. Moi, j'ai la chance d'avoir mon cabinet qui est quelques centaines de mètres de chez moi, donc j'allais toujours faire mes téléconsultations par là-bas. Donc, pour moi, c'était du travail. Ouais. Ma femme, médecin au CHU, allait au CHU comme toujours. Fondamentalement, nous, le confinement a été difficile pour la garde d'enfants, mais on était loin, je pense, de comprendre ce que vivaient véritablement les autres qui sont restés chez eux pendant 8 semaines.
Vous avez réussi quand même à répondre à leurs interrogations, du coup, malgré ce décalage?
Après, on s'appuie sur les ressources de chacun, donc on n'a pas obligatoirement besoin d'avoir vécu les mêmes choses, heureusement. Mais sinon, on s'appuie toujours, on essaye de trouver des leviers de résilience chez chacun et donc de leur montrer comment est-ce qu'ils vont pouvoir s'en sortir.
Jérémy Galen, est-ce qu'on peut craindre une épidémie de la peur? Que la peur se propage vraiment à l'échelle nationale et que finalement, on ne voit pas ce déconfinement, que la France reste aussi arrêtée par peur?
Je pense que ça va être différent, bien évidemment, pour les régions comme Paris, comme Mayotte ou quoi que ce soit.
Les régions classées rouges.
Ouais, voilà. Et par contre, pour moi qui suis un voiron dans la région de Grenoble, je pense pas qu'avec les beaux jours, les gens vont avoir trop peur. Je pense que à partir du moment où on a la possibilité de retrouver du lien, comme vous disiez tout à l'heure, de retrouver ses repères, de retrouver sa famille, de retrouver les personnes qui nous font du bien au quotidien, qui nous aident à vivre notre vie de tous les jours, à supporter le quotidien. Ça sera un très très bon vecteur. Je suis pas persuadé que la peur l'emportera, sauf pour des personnes qui ont vraiment un caractère pessimiste, voire des tendances un peu paranoïdes et qui vont chercher à tout prix à valider, notamment sur Internet ou par des médias quelconques, vont chercher à valider leur angoisse.
Il est 20h39, vous êtes sur RMC, c'est Mobilisation Générale en direct jusqu'à 22h. On s'intéresse à ce déconfinement qui a lieu dans un peu plus de 3h et cette peur du déconfinement. Nous sommes avec Jérémy Gallen qui est psychologue, toujours évidemment avec Oussem Loussaïef, avec le docteur Christian Reca. Et vous, au 32-16, venez nous dire si vous avez peur du confinement. Benoît a fait le 32-16. Salut Benoît.
Salut
Benoît.
Tu nous appelles de Créteil. Est-ce que ce déconfinement te fait peur ?
Alors, je ne sais pas si réellement on peut parler de peur, mais plutôt d'une angoisse avec tout ce qu'on entend à la télé, toutes les informations qu'on n'a pas, tout ce qu'on sait ou qu'on ne sait pas sur cette maladie. C'est vrai qu'effectivement, ça, c'est pas super enrichissant, quoi.
Tu travailles dans quoi, Benoît ?
En informatique.
Et tu informatique, j'imagine que tu peux télétravailler ?
Exactement.
Donc
je travaille dans une université en informatique. Donc du coup, on a quand même été obligé d'aller sur place pour donner un peu de matériel aux professeurs ou aux administratifs qu'on avait besoin pour leur permettre de télétravailler.
La semaine prochaine, tu retournes sur place ou du coup télétravail ?
Non, on continue télétravail. On a cette chance de pouvoir continuer. Après, comme il faut quand même redistribuer du matériel puisque rien n'était prévu avant le confinement, même nous, on télétravaillait pas dans mon service. Donc du coup, il faudra quand même y retourner un jour ou deux de temps en temps par semaine.
Merci Benoît de nous avoir appelé ce soir au 32-16 et je me tourne vers Jérémy Gallen, le psychologue qui est avec nous ce soir sur RMC. Notre auditeur, Benoît, semblait faire une différence. On lui parle de peur, il dit plutôt une angoisse.
Exactement.
Oui.
Quelle est la nuance ?
La nuance, elle est que la peur, elle est ciblée sur un objet précis. Par exemple, il est très facile d'avoir peur des souris, peur des avions, peur d'une maladie, par exemple. Et en revanche, l'angoisse est quelque chose de diffus qui n'est pas ciblé sur un objet particulier, ce qui crée un sentiment très désagréable pour la personne avec des symptômes vraiment tous azimuts dans le corps et qui fait qu'on ne sait pas quelle défense adopter face à ce danger qui est perçu.
Le docteur Christian Reca a une question.
Oui, je voudrais souligner à nos auditeurs la voix et le silence de notre Jérémy Gallen qui concrètement donne le temps aux personnes d'entendre.
Non, consultation là.
Absolument. C'est, je voudrais le souligner, c'est très important. Et j'aimerais aussi souligner un point, je n'ai pas votre expérience, monsieur, c'est ça pour vous dire que j'ai l'impression...
Moi, je n'ai pas la vôtre non plus.
J'ai l'impression que votre métier a souligné un point à l'instant, c'est que nous étions pendant 2 mois en introspection, nous étions tous à réfléchir, nous étions à nous poser des questions, et il y a peut-être dans ces questions des remises en cause. Et puis tout d'un coup, on va se revoir demain matin avec les problèmes que nous avions il y a 2 mois, sans avoir pu résoudre les questions qu'on a essayé de se poser durant ces 2 mois. Et il y a, je pense, une confrontation de 2 personnages, homme ou femme, demain, nous tous, nous allons demain au travail, nous allons demain revoir nos amis, recréer des liens, sans avoir été en mesure de résoudre dans le concret, dans le pratique et dans le temps présent, l'ensemble des éléments. Qu'en pensez-vous ?
Ce que vous dites, ce que vous évoquez me fait penser à ce que disait le journaliste tout à l'heure, que c'est un petit peu comme si c'était nouvel an. À minuit, on allait changer d'année. Et ce que vous dites, c'est que oui, il y a des personnes qui ont fait un moment d'introspection pendant ces 8 semaines et qui, du coup, se sont peut-être idéalisées un nouveau mois.
Oui.
C'est-à-dire, eh bien, quand on sortira, je sais que je ne ferai plus ci, ne ferai plus ça, ça, j'aimerais le faire différemment.
J'arrête de boire, j'arrête de fumer.
Un peu comme le 31,
voilà, c'est ça, voilà. Je me coupe les cheveux.
Ça dure 15 jours, dans le meilleur des cas.
Demain, l'idéal du mois va devoir se confronter au mois réel. Et ça risque de tenir, le temps que ça tiendra. Et puis, ça dépend de la force d'introspection de chacun, de son désir profond et pour arriver à porter ça jusqu'au bout. Mais pourquoi pas?
Est-ce qu'on peut voir certains symptômes se développer, comme l'agoraphobie, par exemple, je pense à ça en ce moment. Est-ce que c'est possible qu'avec le déconfinement, certaines personnes voient en elles se révéler ces symptômes-là?
Oui, 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 c'est tout à fait possible.
Le déconfinement va être un révélateur de problèmes, c'est ça?
Alors, ce que j'ai pu constater dans mes consultations, c'était que vraiment le confinement faisait catalyseur de tous les petits troubles de la personnalité, de toutes les petites défenses, de toutes les manifestations psychiques habituelles chez le patient. Là, je pense que oui, il peut y avoir. C'est ce que j'avais dit il y a quelques semaines quand vous m'avez, je suis passé sur l'antenne aussi, oui. C'est que il y a des risques de décompensation également. Alors, il va falloir être vraiment. Enfin, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être professionnel de la santé psychique pour ça. Je pense que tout le monde a un rôle pour voir dans sa famille, dans ses amis, si nos proches vont bien, s'ils le vivent bien, et puis peut-être leur dire, ben là, il y a peut-être besoin d'un petit coup de main, de se faire aider ou quoi. Mais c'est vrai qu'il va y avoir des personnes pour qui. Ça ouvre un nouveau champ des possibles et on ne sait pas encore comment est-ce qu'ils vont le saisir.
Jérémy nous a appelé au 3216. Salut Jérémy.
Bonsoir à tous.
Tu nous appelles de Bretagne, le Morbihan. Oui. Alors toi, c'est plutôt ambiance Patrick Sébastien 31 décembre ce soir ou au contraire ce déconfinement te fait peur?
Non, au contraire.
Explique-nous pourquoi.
Moi, je continue toujours à être persuadé que je pense que tout le monde est persuadé que le virus n'est toujours pas parti, hein, malgré qu'on soit en zone verte. Pour le déconfinement.
Oui, c'est un fait. Effectivement, il n'est pas parti, ce virus. Ouais.
Voilà. Et puis, bon, moi, j'ai une maman qui est atteinte du cancer et qui a fait une récidive. Et voilà, j'ai toujours peur parce que, bon, je fais toujours de l'aide à la personne. Donc, je l'aide à faire les courses, tout ça, avec ma famille, on fait tout ce qu'on peut. Et voilà, ce qui me fait peur, c'est les gens comme ma mère qui sont assez fragiles d'attraper ça derrière. Mmh. En plus, voilà. Et puis bon, moi, pendant le confinement, j'ai travaillé quasiment tout le temps.
Pas de visite.
Ma conjointe aussi. J'ai deux enfants. Voilà, c'était très compliqué.
Donc pas de visite. Pas de visite à votre mère, si on comprend.
Ouais, voilà. J'ai pas de visite envers ma maman, mais quand je déposais des courses, c'était en bas de son garage. Voilà. Et puis on voyait loin, quoi. C'est toujours impossible. Mmh. Bien sûr.
Merci. Jérémy, merci d'avoir appelé au 3216. Merci, bonne soirée à toi et bon courage dans le Morbihan. Jérémy Gallen, psychologue, vous êtes avec nous, on s'intéresse à cette peur du déconfinement. Ce sera notre dernière question. Est-ce que vous avez peur du déconfinement?
Moi?
Vous? Ouais, personnellement. Est-ce que le psychologue que vous êtes a peur, craint ce déconfinement?
Non, je vous avoue.
Répondez-nous. La consultation est gratuite.
Comme je le disais tout à l'heure, ma femme travaille au CHU. Même si je lui demandais toujours de se nettoyer les mains, de changer gestes, ses vêtements en arrivant, sinon à part ça, c'est toujours pareil. Il y a des personnes à risque, il y a des métiers à risque, il y a des situations à risque. Ouais. C'est bien pour ça qu'on n'aura pas de concert cet été, pas de festival,
pas de sport non plus.
Pas de sport collectif. Donc il y a des situations à risque qui sont à éviter. À partir du moment où on se lave les mains, on porte un masque et on le porte convenablement, c'est quand même important. Hein. C'est un geste technique qui s'apprend dans les écoles de médecine et d'infirmière. C'est pas pour rien. Donc du coup, il faut. Si on fait tout ça, non, j'ai pas forcément peur. Et puis je me dis que si on l'a, et ben au moins dans 15 jours, on est tranquille.
Ça fera 50 euros.
Voilà.
Merci Jérémy Gallen, un grand
bonne
merci.
Année.
Merci.
Bonne année.
Bonne année à vous.
En direct sur RMC. Merci. Vous êtes psychologue. Merci d'avoir été en direct dans Mobilisation Générale. L'émission continue évidemment en direct jusqu'à 22h avec Oussem Loussaïef, avec le docteur Christian Rekia. Alors on disait à l'instant, notre invité le disait, pas de concert, pas d'événement,
pas de foot,
pas de foot professionnel en tout cas pour le moment en France, mais le zoo. C'est possible. Et c'est possible dès la semaine prochaine.
Dans certaines conditions.
On vous explique ces conditions dans un instant. On sera en direct avec la directrice du zoo de Thoiry. À tout de suite.
RMC Mobilisation Générale. Plus fort ensemble.
Oussem Loussaïef, Thibaut Giangrande.
Il est 20h48. Excellente dernière soirée, amis confinés. Dernière soirée de Mobilisation Générale. On vous explique tout à l'heure. Dernière soirée avant le déconfinement progressif. On le rappelle, important quand même cette notion, docteur Christian Requia qui nous accompagne ce soir. Déconfinement progressif. On fait pas n'importe quoi à partir de minuit ce soir.
Absolument.
Voilà. Alors, on s'intéresse à ce qu'on peut faire, à ce qu'on ne peut pas faire à partir de demain. Et je vais vous parler d'une ville, la ville de Thoiry. Thoiry, c'est dans les Yvelines. Zone rouge sur la carte de France du déconfinement. Et pourtant, la semaine prochaine, le célèbre zoo de Thoiry va rouvrir ses portes. Bonsoir Christelle Berchoni.
Bonsoir.
Vous êtes la directrice du zoo de Thoiry. Expliquez-nous comment, pourquoi vous pouvez rouvrir votre zoo, une partie de votre zoo à partir de la semaine prochaine.
Voilà. Alors effectivement, c'est une partie du zoo qu'on réouvre, hein, puisque nous on a deux parties. On a une partie qui se fait en voiture et une partie qui se fait à pied, ou en zoo traditionnel. La partie qu'on va réouvrir à partir de samedi prochain, alors déjà pour samedi et dimanche pour commencer, puisqu'on a mis beaucoup de mesures en place hein, pour justement le faire en toute progression et en toute confiance et sécurité pour tout le monde. Donc effectivement, il y a le safari qui va se faire en voiture et qui réouvre samedi. Alors pour ce faire, on a vraiment créé un espace sur le parking qui va pouvoir absorber pas mal de voitures et surtout on va interdire tous les rassemblements et tous les pique-niques qu'on peut voir d'habitude sur ce parking.
Christelle Berchenet, pourquoi vous avez ciblé cette date du samedi 16 mai ?
Alors cette date-là, elle est déjà le confinement ayant eu lieu le 11 mai, on voulait y aller aussi progressivement. En disant, voilà, on va laisser le temps aux gens aussi de reprendre une vie normale. Et nous, tout simplement, on veut offrir un moyen pour que les gens puissent sortir avec leurs enfants en toute sécurité et pouvoir juste reprendre une vie normale et revoir les animaux.
Est-ce que vous seriez prêt à Thoiry samedi prochain est-ce que vous avez anticipé une éventuelle arrivée massive, que tout le monde ait la même idée de se dire, le seul zoo ouvert, c'est Thoiry, super sortie de confinement samedi?
Alors, nous, on a fait en sorte, effectivement, d'avoir un circuit sur le parking qui nous permet d'avoir 2 kilomètres à peu près de circulation et d'attente. Ouais. D'accord. Après, on a fait des billets datés qui nous permettent aussi à tout moment de pouvoir baisser, de pouvoir dire stop, on arrête de vendre les billets, tout simplement, puisqu'on fait un tarif à la voiture. Donc, on aura une idée du flux qui va déjà commencer très rapidement au début de semaine.
Docteur Christian Requia.
Oui, madame, je suis venu vous rencontrer votre zoo une bonne dizaine de fois dans ma vie. Et j'aimerais dire à tous les parents qui ont des enfants, et même les grands-enfants de plus de 40 ans, allez voir les animaux, ça détend, cela apaise. Et j'ai une question à vous poser, je suis un passionné des éléphants. Vos deux éléphants, comment vont-ils ?
Alors aujourd'hui, on a un éléphant depuis quelques années, depuis 2 ans. Pardon. Et on a Ben, qui a plus de 40 ans aujourd'hui.
D'accord.
Et qui attend bientôt sa nouvelle compagne.
Ah. Voilà, absolument. J'avais entendu parler de la nouvelle compagne. Ouais. Et qui a choisi la nouvelle compagne ? Il y a eu un casting de réaliser ?
Alors il y a toujours les castings, hein, parce que nous on fait partie de plusieurs associations. Association FDPZ, qui est l'association des zoos français, mais il y a aussi une association européenne, le ASA, qui gère toute la partie génétique.
Est-ce qu'il va avoir un nouvel abri, un nouvel endroit, un nouvel espace pour ces deux éléphants ?
Alors les éléphants, ils ont déjà un bel abri et qui va être réaménagé pour l'arrivée de la deuxième.
La dernière fois que je l'ai vu, il se balançait, il n'avait pas l'air en grande forme.
Un éléphant.
C'était dû à quoi ? Il faisait très chaud, très sec.
Ben a été sauvé de plusieurs. Ben est arrivé à la soirée il y a quelques années déjà. Oui. Et il avait été sauvé et maltraité à l'avant. C'est un stéréotype qu'il avait pris à l'avant. Donc il a tendance à se limer tout seul les défenses. Et ça c'est quelque chose qu'il a gardé. Pas lié à sa captivité, mais c'est lié à un traumatisme qu'il a pu avoir dans son enfance.
Christelle Berchenier, on le rappelle, vous êtes directrice du zoo de Thoiry. J'aimerais donc rebondir sur la question des animaux. Dans quel état de santé se trouvent aujourd'hui les animaux après cette fermeture de 2 mois ?
Écoutez, les animaux, ils vont très bien. Hein. Nous, pendant ces 2 mois, la vie a continué. Il y a eu beaucoup de naissances. Hein. Sur les 1300 animaux, on a eu plus d'une quarantaine de naissances sur différentes espèces.
Vous aviez assez de personnel pour pallier à l'entretien, les naissances ?
Tout à fait, tous les soigneurs sont restés sur le terrain, hein, je les remercie, les vétos, tout le monde est resté sur le terrain à prendre soin des animaux. Et puis, c'est vrai que ce soleil qui a aidé aussi à ce que la nature reprenne ses droits sur l'ensemble du parc, c'était assez intéressant. Mais c'est vrai que tout le monde a œuvré jour après jour pour faire en sorte que ce soit le mieux possible pour les animaux.
L'argent qui n'est pas rentré dans les caisses ces 2 derniers mois, comment vous avez fait pour acheter la nourriture aux animaux, pour s'en occuper, payer le personnel ?
Il faut savoir que les animaux, juste les animaux, c'est 30 000 euros de nourriture. Alors, on avait
excusez-nous, ça a coupé, vous pourriez répéter ?
Par mois, c'est ça ?
C'est 30 000 euros par mois de nourriture pour les animaux. Ouais. Alors, il faut savoir que nous, on avait la chance quand même d'avoir une activité aussi l'hiver. qui est le Festival des Lumières, qui marie aussi bien l'activité du zoo avec quelque chose d'événementiel. Et donc, on a pu arriver à convenir et à dépenser le moins possible en faisant en sorte que certaines personnes des équipes soient en chômage partiel, hein, comme tout le monde. Oui. Mais par contre, toute la partie bien-être animal a vraiment été prise en compte. Et on avait suffisamment, jusqu'à aujourd'hui, de trésorerie pour faire en sorte que la vie continue. Maintenant, effectivement, il ne faut pas que ça continue trop longtemps parce que, on a tous besoin de retrouver nos clients.
Christelle Berchenier, vous avez eu un soutien de l'État ?
Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se sont faites. On est comme tout le monde, on a les prêts garantis par l'État. On a fait en sorte de faire des demandes de subventions et ce genre de choses. Et aujourd'hui, on attend les nouvelles de l'État.
Le docteur Christian Requia, docteur et fan d'éléphants, encore une question pour vous.
Avez-vous un projet d'amélioration du cadre avec des nouveaux box pour les animaux ? J'avais cru entendre ça la dernière fois que j'étais passé.
Alors, il y a plusieurs choses qui sont en cours. Hein. Au moment où on a fermé, on était en train de... Et on est toujours en train de terminer un projet qui est lié aux gorilles, pour la conservation des gorilles.
Ah oui,
Ce que vous pouvez voir à l'entrée du safari, ce que les gens verront, qui est en travaux à l'entrée des safaris, c'est effectivement un projet, une grande maison pour des gorilles. Des gorilles mâles, hein, uniquement. Puisqu'il y a beaucoup de gorilles mâles qui sont en manque de domicile, on va dire. Et donc, du coup, nous, on va accueillir ces gorilles mâles.
D'accord. Christelle Berchenier.
On espère d'ici durant juillet.
Christelle Berchenier, directrice du zoo de Thoiry, est en direct avec nous à 20h55 sur RMC. Christelle Berchenier, j'aimerais revenir sur une chose que votre zoo a mis en place pendant ce confinement. Vous avez lancé des lives avec les animaux. Alors, quel a été le retour de cette expérience un peu inédite ?
Alors, c'était un peu inédit. C'est quelque chose que, justement, on a décidé de faire perdurer. Parce qu'on s'est rendu compte, alors au départ c'était vraiment pour offrir, la partie animalière qui allait rejoindre le canapé des gens et pouvoir sortir un petit peu malgré tout et prendre l'air. Eh bien c'est quelque chose qui a été extrêmement apprécié, oui. Aussi bien par mon équipe parce que vraiment ça leur permet de véhiculer, c'est leur premier job, c'est de véhiculer toute cette pédagogie autour des animaux, des espèces et de la conservation. Et après, ça a été très bien accueilli par notre public et surtout par les enfants, les grands-enfants aussi, hein, comme on le disait tout à l'heure, à 40 ans, il y a aussi des gens et des grands-enfants qui viennent encore. Et donc, c'est vrai que ça a été extrêmement apprécié. Et c'est un moyen facile et simple de pouvoir communiquer et surtout de véhiculer ce besoin qu'on a de dire il faut conserver les animaux et il faut faire attention à eux.
La dernière question, Christelle Berchenier, directrice du zoo de Thoiry. On était il y a quelques minutes avec un psychologue, on s'intéressait à la peur du déconfinement chez les humains. Est-ce qu'on peut imaginer une peur du déconfinement chez les animaux, enfin le retour des humains vers les animaux? Est-ce que c'est un phénomène qui est possible, plausible?
Alors non, parce que effectivement chez nous ils ont beaucoup d'espace. Il y a plus de 150 hectares, les animaux sont en semi-liberté. Et aujourd'hui, on le voit, nous, quand on se promène avec nos voitures à l'intérieur du safari, hein, parce que même nous, on y va en toute sécurité, et bien ils viennent vers nous, ils ont besoin de nous rencontrer, ils ont besoin de nous, ils ont besoin de voir les choses. Donc, ils sont habitués à ça. Et effectivement, les retrouver, de retrouver les voitures au fur et à mesure, ça va aussi leur redonner une vie et l'envie aussi, tous les jours, de pouvoir croiser des êtres humains.
Mais ils viennent vers vous au contact direct ?
Oui.
D'accord.
Tout à fait.
Impressionnant. Dernière question très rapide, parce qu'on en parlait avant l'émission. Oussem, qui a une Smart, c'est possible aussi. N'importe quelle voiture peut
oui,
faire
bien
ça.
Sûr.
Ouais. Ouais, parce que je me posais la question. Je me disais,
il avait peur pour la.
Exactement.
Le châssis. Merci beaucoup.
À partir du moment où les vitres restent fermées.
Et bien sûr. Allez-y, mesdames et messieurs, c'est véritablement thérapeutique d'aller aux eaux de Thoiry. Vous allez avoir une vie merveilleuse après.
Merci Christelle Berchenier, directrice des eaux de Thoiry, d'avoir été en direct sur RMC ce soir. Bonne soirée à vous et bonne reprise avec les humains, en tout cas à partir de la semaine prochaine. Il est 20h57. On remercie, un grand merci au docteur Christian Requia d'avoir été avec nous une fois de plus ce soir. Christian, on se retrouvera un peu moins en semaine, mais sur RMC toujours le week-end.
Que serait-on sans le docteur Requia sur cette période de confinement ?
Ce n'est que de l'humilité et du bonheur de retrouver de grands professionnels.
On vous retrouve
gentillesse, immense professionnalisme.
On comprend là, docteur, que vous ne parlez pas de Thibaut
Jean-Grand. Et je reviens quand vous voulez, du matin au soir, quand
merci.
Vous voulez.
Et merci pour tous vos conseils et votre analyse, docteur Requia. Oussem, nous on est ensemble pendant encore une heure, mobilisation générale continue.
J'aurais préféré rester avec le docteur.
Après 21h, je te remercie une fois de plus de cette fidélité. Après 21h, on s'intéresse un peu plus au confinement et à ce déconfinement qui arrive dans 3 heures. Comment bien passer cette étape ? On s'intéresse après 21h.
Ah oui, on parle cheveux, on parle reprise du sport de nos citoyens français. On aura Jean-Luc Reichmann, le rendez-vous du midi avec nous. Et puis, une petite session musique avec le célèbre DJ Cut Kill.
Il est 20h58, mobilisation générale continue. À tout de suite.
RMC, mobilisation générale.
Plus fort ensemble.